Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, je prends pour cette émission Église porte ouverte la place de Charles Jobert. J'étais à l'Assemblée Générale de l'association Église porte ouverte et c'est lui qui parlait, donc vous allez l'entendre. Dans un premier temps, il évoque Fontaine-Simon.
Nous avons été accueillis par le maire de cette commune et il nous a présenté quelques éléments de boiserie précisément provenant de cette abbaye cistercienne, de magnifiques boiseries du XVIIIe, qui ont échappé à la fureur révolutionnaire et qui ont été déposées donc dans cette abbaye, cette église de Fontenay-sur-Eure. Ensuite, le 17 septembre, se déroulait évidemment la traditionnelle visite conférence d'automne, qui s'articulait en fait sur la présentation, une manifestation qui nous a tout à fait intéressés, c'est-à-dire des expositions d'art contemporain dans un certain nombre d'églises du Timrais. En fait, 9 églises. Donc, c'est la première fois que l'association Église ouverte en Eure-et-Loire offrait en fait son partenariat à une association organisant ainsi une manifestation culturelle. Alors ceci avait un grand avantage pour nous, association, c'est-à-dire que, en fait, ça développait et ça manifestait notre visibilité et ça permettait d'étendre notre notoriété au-delà des limites habituelles de nos adhérents et sympathisants. Nous avons eu ainsi accès à un public qui n'était pas généralement touché par nos manifestations. Notre logo a été imprimé sur les différents documents publiés par l'association chargée de ces expositions, sur les tracts, les notices, etc., ce qui nous a vraiment permis de nous faire mieux connaître. Donc, cette journée du 17 septembre a été consacrée à un circuit dans le Drouet et le Timrais qui nous a permis de voir un certain nombre d'églises où étaient présentées ces expositions d'art contemporain, en l'occurrence Tréon, Boissy-en-Drouet, Châtaincourt et Saulnières. Et en plus, une charmante église rurale, celle de Louvilliers-en-Drouet. C'est d'ailleurs dans cette dernière commune de Louvilliers que nous avons pu déjeuner dans une salle polyvalente. Par ailleurs, l'abbé Jean-Marie Hult nous a fait l'amitié de présider les vêpres le soir à l'église de Saulnières, puisque selon la tradition, on clôt toujours ces visites promenades par le chant des vêpres. Ensuite, le 25 novembre, à la visitation, nous était donnée une conférence en salle sur le thème « Une forme d'expression populaire, les graffitis des murs de nos églises ». Et ce fut présenté par ce qu'on appelle un glyptographe, c'est-à-dire un spécialiste des graffitis, ce monsieur Michel Leblon, et qui a su passionner nos auditeurs, toujours soucieux de mieux connaître les détails les plus secrets et les plus inattendus de nos églises. Voilà pour ce qui est des activités, dirais-je, les plus visibles. Mais ces activités visibles ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt et dérober en quelque sorte à la vue de nos adhérents toutes les actions, souvent modestes et humbles, qui mobilisent nos administrateurs à longueur d'année. Et je veux dire qu'on forme une équipe extrêmement soudée et fraternelle qui se dévoue beaucoup d'une manière permanente et quotidienne pour que cette association puisse vivre et avoir des activités intéressantes. Alors, je citerai parmi ces activités et ces actions la mise en ligne sur notre serveur, sur notre site internet, d'une liste des églises ouvertes qui n'est que le prolongement du guide des églises ouvertes. Un guide de cette nature, très vite, n'est plus d'actualité. Il faut donc apporter des correctifs. Et précisément, cette mise en ligne permanente permet d'avoir une liste à jour des églises qui sont hélas fermées, parce que tout simplement la personne qui l'ouvrait n'est plus disponible, ou trop âgée ou malade, ou pour des raisons de travaux et de sécurité, ce qui est le cas de Crécy-Couvé qui a dû être fermé à la suite d'un arrêté de péril pris par le maire. Donc, ça nous permet ainsi, au fil du temps, de regarder cette liste et de prendre connaissance des églises ouvertes. Ensuite, notre site internet a été enrichi de rubriques qui sont destinées à porter à la connaissance de chacun l'actualité sur nos églises, l'actualité sur la restauration des églises, l'actualité aussi sur les expositions, les conférences, les livres qui concernent notre patrimoine religieux. Alors ce site internet, qui est admirablement géré par Jean-Louis Pincemaille, qui est à mes côtés, effectivement, vraiment énormément de travail, il fait une mise à jour hebdomadaire pratiquement de ce site. Ce site, j'en suis très heureux, semble avoir un grand succès. Si toutefois le succès se mesure au nombre des visites qui sont faites. Or, ces visites se sont élevées en 2019 à 59 000. 59 000 personnes ont regardé notre site et on pense atteindre peut-être cette année 2020 les 100 000. Et ces visiteurs sont les plus variés, originaires des pays les plus inattendus, car nous avons effectivement eu des visites qui proviennent d'Hong Kong, d'Ukraine, de Singapour et même de Chine. Donc on nous regarde à travers le monde. Donc nos églises d'Eure-et-Loir intéressent quelques Chinois, n'est-ce pas, quelques Américains. D'ailleurs, ils nous envient certainement d'avoir un si beau patrimoine. Voilà. Par ailleurs, comme vous le savez aussi, notre association poursuit ce travail que je qualifie de bénédictin, n'est-ce pas, qui consiste à établir les fiches descriptives des églises d'Eure-et-Loir. Ces églises sont 430, 35, je ne sais pas exactement. Et évidemment, nous en avons actuellement, je crois, à peu près 112 qui ont été établies et elles sont toutes visibles sur notre site internet. Vous pouvez donc, c'est très commode, il y a une carte, on clique sur la carte de l'Eure-et-Loir, plac, et on a la fiche de l'église qui correspond quand on l'a bien localisée. Alors, parmi ces toutes dernières fiches, je citerai Saint-Lubin de la Haye, Avelue, et tout prochainement, Saint-Lazare de Lèves, dont Mademoiselle Gallois s'occupe activement, je crois, en ce moment. On devrait donc la voir très très bientôt. Alors, bien entendu, 112, on est loin du compte, hein. C'est-à-dire que c'est un petit quart. Alors, je compte sur vous pour, dans vos villes respectives, vos villages respectifs, bien vouloir faire quelques nouvelles fiches. Il nous en manque quand même beaucoup. Sur le même site, toujours, bien entendu, l'on peut évidemment écouter les émissions qui sont dans le cadre, effectivement, des émissions Église ouverte en Eure-et-Loir sur notre radio locale, Radio Grand Ciel. Alors, effectivement, sur Radio Grand Ciel, on diffuse une émission par mois qui est répétée trois fois. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez les entendre, bien entendu, si vous ne les entendez pas en direct sur la radio, vous pouvez les réentendre sur notre site. Alors, je signalerai, les toutes dernières enregistrées. Alors, on avait fait une émission sur le circuit de l'art pèlerin dont j'ai parlé dans les églises du Timrec que nous avons visitées, par Estelle Vincent, qui était de cette exposition. La présentation par Monseigneur Perrier, qui avait évidemment commenté à la radio la troisième édition de son fameux livre « Comment visiter une église ». Nous avons également une émission sur la restauration de 19 statues de l'église de la Bourdinière Saint-Loup par notre trésorière Dominique Maroquin. Et puis les inventaires des églises, thème qui a été abordé par l'abbé Nicolas Bousset dans la région de Prunelles-Gillon, je crois. Chantal connaît bien ce sujet puisque là il y a pas mal d'inventaires qui ont pu être faits. Et là aussi, je vous engage chez vous à faire les inventaires de vos églises. Le patrimoine pictural de Saint-Pierre de Dreux, qui a été présenté par Damien Chantraigne, qui est le directeur du musée d'art et d'histoire, c'est lui, Dreux. Expérience d'un veilleur, ça nous a intéressé d'avoir l'expérience d'un tout nouveau veilleur, M. Oliveira, de Saint-Lubin-de-la-Haye, qui ouvre l'église de Saint-Lubin-de-la-Haye depuis, je crois, maintenant le mois d'octobre 2018. Ce qui veut donc dire, effectivement, et ça c'est encourageant, qu'il y a de nouvelles églises qui s'ouvrent. Alors voilà, en gros, pour le bilan que je peux faire de manière la plus concise possible, parce que je ne veux pas vous ennuyer par des palabres oratoires trop nombreuses. Cependant, avant de terminer évidemment ce rapport dit d'activité, en ma qualité de président de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire, je tiens en premier lieu à remercier le conseil départemental d'Eure-et-Loire pour la confiance qu'il nous porte en nous accordant, comme vous savez, une subvention tous les ans et en ayant accepté en 2018 de prendre en charge, ça vous le savez, l'intégralité de la mise en page et d'édition de notre guide Église ouverte. Et ça, j'en reparlerai dans quelques instants d'ailleurs.
Arrivent les projets de l'association et notamment la visite du musée de la Visitation à Moulins. Et si certains d'entre vous, chers auditeurs, ont envie de participer à cette excursion, eh bien, il faut vous adresser à l'association Église Porte Ouverte. Pour cette partie de l'émission, nous abordons les projets de l'association et notamment l'organisation de la visite du musée européen de la Visitation à Moulins.
C'est pas tout près. Moulins, c'est à peu près 300 km de Chartres. Hein. Alors, ça se fait, l'abbé Mucherie dit l'autre jour, dans la journée. Ça s'était fait pour l'ordination de Laurent Perceroux, n'est-ce pas, lorsqu'il a été ordonné évêque de Moulins. Donc c'est réel, ça veut dire qu'il faut partir, comme c'est à 300 km, il faut compter en voiture 3h45, en car un peu plus, j'imagine. Donc il faut partir très tôt et revenir un peu tard. Par ailleurs, une opération de ce type-là a un coût, parce que le coût du transport, par exemple, 1 780 €. Je vous le dis franchement, le déjeuner, on nous fait un forfait à la maison diocésaine de Moulins à 650 €. Les visites, à peu près 50 €, ce qui nous fait un total, en gros, de 2 480 €. On a donc décidé, en fait, d'en prendre la moitié à la charge de l'association et les participants paieront l'autre moitié. Mais cette autre moitié sera, pour ceux qui devront acquitter le coût, variable. On a un devis, nous, sur 50 personnes. Alors, ensuite, évidemment, bon, il y aura des modulations si on n'est que 45. Alors, moi, j'ai fait le calcul, c'est très simple. Hein. Si on est 50, ça vaut 25 €. Si on est 45, 27, 40, 31 et 35, 36 €. Voilà. Donc, c'est peu. Quand on connaît le prix d'une excursion organisée par les agences de voyage connues que sont tous dans le secteur, où c'est, en moyenne, entre 90 et 110 €. Un voyage à Amboise, n'est-ce pas, ou au Puy du Fou, c'est à peu près ça. Donc c'est un vrai cadeau que je vous fais là, effectivement. Mais, je voulais d'abord, effectivement, recueillir votre sentiment. Est-ce que, globalement, vous êtes tous d'accord pour ce projet? Alors, la date, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça a son importance, le 4 juin. Donc, je mets au vote, y a-t-il des personnes qui sont contre ce projet? Mais je l'ai dit, hein, on part en fait vers 6h, c'est ça? 6h, 6h30, on vient? 22h? Bon, alors, monsieur Fougeron vient de me dire qu'en effet, c'est renseigné, nous pourrons visiter en fin de matinée la cathédrale de Moulins et surtout son exceptionnel rétable du maître de Moulins, qui est très connu d'ailleurs, effectivement, qui a été en restauration très longtemps, donc je ne savais pas s'il avait réintégré les lieux, apparemment il est revenu. Donc nous pourrons le voir également. Hein. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. On part vers 5h30, 6h, ou 6h, et ensuite on revient vers 21h. 21h. Voilà. Pour que ça soit. Alors, est-ce que, en fait, vous avez parmi vous, vous pouvez déjà, un certain nombre de vous, vous inscrire? Il y a combien de personnes, en gros, qui... On serait quand même une quarantaine. À peu près. Oui, il y a ceux qui sont absents, ceux qui ne savent pas peut-être. Bon, écoutez, donc on peut s'engager dans ce projet. Voilà, alors on va habiller ça, parce que pour nous, ça sera une action de formation vis-à-vis des autorités civiles, n'est-ce pas? C'est une forme d'action de formation, il correspond au statut. Vous allez à Moulins pour vous former sur la meilleure connaissance de l'art sacré. Là, c'est tout à fait logique. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de votre confiance et je pense que c'est une idée de l'abbé Mucherie, je crois que c'est lui qui nous l'avait soumis, qui est excellente. Alors peut-être que les années suivantes, on trouvera d'autres buts de ce même type. Hein. Voilà.
Au programme de l'Assemblée Générale, Mgr Jacques Perrier, auteur du livre « Comment visiter une église », nous parle de ce qui l'a poussé à écrire et à préfacer la troisième édition.
Général, ben, nous savons, et vous le savez très bien, que l'attraction aujourd'hui pour le patrimoine. Bon. C'est très bien, c'est peut-être aussi presque un peu inquiétant, bon, parce que si on s'occupe trop uniquement du patrimoine, bon, enfin, en tout cas, pour les églises, d'une certaine façon, on en profite. Je me rappelle une histoire que j'ai vécue ici, quand j'étais évêque ici. Je ne sais plus exactement où c'était. C'était en Beauce, effectivement. Bon. Et alors, j'ai été invité à venir, pas tout à fait reconsacré, mais quasi, une église, ou du moins un fragment d'église. Je crois que ça devait être, à l'origine, ça devait être un transept d'une église qui avait été en très très mauvais état. Et donc, une bonne partie s'était effondrée. Et dans les années vers 1930, quelque chose comme ça, la municipalité avait décidé, ben, on va raser le reste. Et puis, je ne sais pas ce qui s'était passé, si la municipalité avait changé ou la guerre est arrivée, ben, ils n'ont pas détruit. Bon. Moyennant quoi, 50 ans après, en grande pompe, on réinaugurait ce qu'il en restait, qui avait été restauré à prix d'or, avec préfet, président de région, président départemental, tout le monde, la chorale des écoles, etc. Je dis aux enfants qui ne s'en souviennent certainement pas que sans doute leurs grands-parents avaient dû voter la destruction et qu'ils étaient invités à venir chanter pour la réinauguration. Il faut dire que... Donc, bon, et nous savons bien que la plupart des municipalités sont très favorables... jusqu'ici en France, ça ne durera peut-être pas toujours, hein. Jusqu'ici en France, d'habitude, quand c'est mis au vote, la population est plutôt pour garder ce monument, à la fois parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, d'une part, et d'autre part parce que, d'habitude, dans un village, c'est le bâtiment le plus ancien, il n'y a pas beaucoup d'autres bâtiments anciens. Paris, je crois, a d'autres problèmes avec ces églises parce que les gens, ils sont sentimentalement beaucoup moins attachés. Bon, parce que c'est des grands édifices et je sais que les archevêques de Paris successifs se battent un peu avec les maires successifs aussi pour qu'ils s'occupent de ces grands bâtiments. Alors, le patrimoine, oui, c'est très bien, mais et l'accord des municipalités, etc., bon... Quand j'étais à Tarbes et Lourdes, il y avait presque 500 églises. Et je m'étais donné comme objectif, des villages tout petits, sur une fois qu'il y avait 20 habitants. Puis, au total, il y avait 200 000 habitants pour 500 communes. Et je m'étais donné comme objectif d'aller visiter toutes ces églises. Et j'ai toujours rencontré les maires. Toujours. Qu'on fasse attention à eux et que vous savez bien quel est le régime légal en France, c'est eux qui en sont propriétaires. Nous sommes affectataires de la totalité du bâtiment, de la totalité des horaires. On ne peut rien faire dans une église sans l'accord explicite, et pas implicite, explicite du curé. Ah, le curé étant celui que l'évêque a nommé. Qu'est-ce que c'est qu'un évêque? C'est celui que le pape a nommé. Donc, les patrimoines, c'est très bien, etc. Mais donc, le sens. Alors, si je peux recommander mon bouquin pour une chose, c'est pour les 12 chapitres que j'ai consacrés à la dédicace ou à la consécration d'une église ou à la consécration d'un autel. Peut-être parmi vous, y a-t-il encore des gens qui ont participé à la célébration de la consécration de l'autel de la cathédrale en 1992, je pense. C'était une célébration absolument remarquable, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un rythme très, très beau, et très simple finalement, et très explicite. Je crois que c'est à la fois la dédicace d'une église ou la consécration d'un autel sont des célébrations très belles, et qui font comprendre le sens. Alors, je ne dis pas du tout que quand vous faites visiter, vous allez raconter tout ça. Je pense que pour des gens qui font visiter une église comme église, et pas simplement comme bâtiment, je pense que c'est intéressant de savoir comment l'église procède pour le faire, quel rite elle emploie, quelle lecture elle utilise, à quel fond biblique elle se réfère. Je me suis efforcé, dans l'édition actuelle, Donc, dans la diocèse de Limoges, de Haute-Vienne et Creuse, je me suis attaché à retrouver, citer une trentaine des églises. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de dire toute église a quelque chose. Bon. Alors, bien sûr, il y a des cathédrales, surtout ici, j'étais assez gardé quand même, ayant été à Paris comme curé et ensuite à Chartres. J'étais quand même assez gâté. La cathédrale de Terre-Belle-Eau, non, c'est mignon. Ça avait à peu près la taille des sacristies des cathédrales où j'étais avant. C'était un peu restreint. Et donc, qu'il y a quelque chose à trouver partout, en chaque lieu. C'est pour ça d'ailleurs aussi que vous êtes là. Donc, le privilège. Et c'est d'abord ça que j'ai dit que l'illustration est un peu fausse, parce qu'ils ont évidemment forcé dans l'illustration sur les bâtiments les plus connus. Or, l'intérêt, c'est plutôt de repérer des choses. Bon. Après, une des difficultés, je pense, pour l'instant encore, les églises sont quand même très visitées. Mais à la différence des châteaux, il y a toujours une histoire. Il y a toujours eu un meurtre, il y a toujours eu, je ne sais pas quoi, mais j'ai toujours pensé des trucs, des gens de mauvaise vie, et tout. Par exemple, le diocèse de Limoges, Chalut, il y a eu Richard Cœur de Lyon qui s'est fait tuer par mégarde, toujours se fait tuer par mégarde, etc. Bon, donc, il y a quelque chose à raconter. Dans les églises, raconter le sacrifice de la messe, c'est pas se faire ici, c'est pas tout à fait du même genre. Alors, quand même, si vous avez, parce que ça, les gens sont très sensibles au récit. Bon, je suppose que dans beaucoup de vos églises, les étagères, pas les étagères, mais la réunion des paroissiens, on ne disait pas les citoyens à l'époque, des paroissiens, pour rédiger les cahiers de doléances avant les états généraux de 1789, se sont très très souvent tenus dans les églises. Peu de gens savent ça. Bon. Ça peut aussi être intéressant, je ne sais pas si... Bon, la plupart, je pense, n'ont pas été désaffectés. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de vos églises au moment de la Révolution? Bon. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être... ça, ne serait-ce que de savoir quand l'évêque... même pour des gens qui sont un peu payés, ils savent quand même que diocèse, il y a un évêque. Quoi. Bon. Quand est-ce que l'évêque est venu pour la dernière fois? Je faisais allusion à la tournée des églises dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et on disait souvent, on n'avait pas vu l'évêque depuis 50 ans, etc. Alors, parce que surtout maintenant, avec le regroupement, on a plutôt tendance à aller dans les églises plus importantes, et peu dans les petites. Or, chaque village existe, chaque municipalité existe, et chaque église existe. Et donc, voilà. Alors, si vous pouvez trouver l'une ou l'autre histoire, mais plutôt vraie quand même. Bon. Ensuite, une autre remarque pour vous, c'est, on organise des visites, mais je pense que vous devriez avoir voix au chapitre pour la présentation de l'église quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, quand l'église est ouverte, mais qu'il n'y a personne pour la faire visiter, ou il n'y a même pas de permanence d'accueil, l'église est ouverte. Bon. Je crois que là, vous êtes bien placé pour dire, curé, l'équipe paroissiale, quelle que soit la structure, faisons attention à la manière dont notre église se présente pour quelqu'un qui y entre. Quelle image ça va donner? Ça joue parfois sur des... Bon, évidemment, il faut mieux que ce soit propre. Bon. Oui, évidemment. Mais si on peut supprimer les affiches pour des événements qui se sont déjà déroulés depuis 15 jours ou 3 semaines, voire 2 ans, ça vaut mieux. Bon. Les vieilles affiches un peu jaunies, bon. les panneaux, j'en ai un peu contre... Enfin, c'est très bien les panneaux d'affichage, j'en dirais un autre. Mais il faut quand même qu'ils soient vivants, mais qu'ils soient quand même une certaine qualité. Bon. Et puis, est-ce qu'il y a un minimum d'explications, je ne sais pas quoi, ne serait-ce que sur le saint, à qui est-elle dédiée, cette église, à qui elle est consacrée, et pourquoi, qui c'était, un petit minimum. Donc, la responsabilité, non pas l'église n'est pas ouverte 24-24, mais enfin, si elle est ouverte, il faut donner un peu de moyens d'accès, de compréhension. Et là, à mon avis, vous êtes qualifié pour le faire. Parce que le danger, vous savez bien, c'est les lieux qu'on connaît, ben ça a toujours été comme ça. Mais oui, mais pour la personne qui entre sur le passage, Non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est la première fois qu'elle la voit. Bon, et on a vite une. On va avoir dans le diocèse de Limoges une journée aussi pour la formation, je ne sais plus quoi, pour le tourisme, etc. Donc on va visiter une église. On est allé faire le repérage avant. Moi, j'ai dit, écoutez, avant de faire le repérage, enfin, avant de faire la visite avec comme ça, pas mal de gens, expliquer que bah, cette église, elle s'est faite en plusieurs époques, etc., etc. Si vous avez un schéma, ça aide quand même, un schéma visuel. Alors, moi, je suis d'une époque d'avant les machins, trucs. Normalement, aujourd'hui, on ne fait pas un exposé sans qu'il y ait. Bon. Et ben, de même, si vous voulez expliquer cette partie, si vous avez il faut que ce soit assez grand. Là aussi, je crois que les gens sont assez sensibles à ce qu'on leur montre quelque chose. Et puis, l'église, elle est ancienne, mais vous êtes nouveau. Et les gens qui découvrent, ils ont droit à quelque chose d'un peu. Voilà, je crois que ça rend service. Parce que pour beaucoup d'églises, il y a ce problème de la datation. De quand date l'église? De quand date l'église? Prenez la cathédrale. Mais c'était très grand à l'époque. Enfin, il y a une préhistoire et il y a une histoire qui s'est continuée jusqu'à maintenant. Bon, le chœur, il n'est pas de la même époque. Donc, dire cette église elle est de telle époque, c'est sauf pour les églises toutes modernes. Hein, bon, l'église de Rochelle, on peut dire elle est de telle date, d'accord. Bon. Mais sinon, ça nie la vie, en fait. Et pratiquement, toutes les églises sont toujours des créations continues. Donc, qu'est-ce qu'on dira de Notre-Dame de Paris quand elle sera réparée, non pas reconstruite? Pour une bonne part, quand même, Notre-Dame de Paris, elle était un peu 19e. Hein. Il y avait quand même une bonne partie qui était 19e, dont la fameuse flèche. Bon. Et les gargouilles, donc, je pense que Viollet-le-Duc les avait fait pour le plaisir des vendeurs de cartes postales. La Sagrada de Barcelone, je crois que l'architecte l'a conçue au 19e, et si tout va bien, ça, je crois que c'est prévu pour 2034. Bon, alors, ce sera du 19e, 20e, 21e. Donc, tout ça s'étend sur une durée. Donc, c'est pour dire aussi que, oui, c'est évolutif parce que c'est un bâtiment vivant. C'est un bâtiment vivant parce qu'il est habité par des gens qui eux-mêmes changent. Et puis, bon, la spiritualité change. Bon, le Concile de Trente a introduit beaucoup de changements dans la disposition des églises. Un conseil qu'on pourrait vous donner, le touriste est fatigué, toujours fatigué. Non, il préfère être assis. Alors vous me direz, mais s'il est assis, il va s'endormir. Mais non, parce que vous parlerez avec tellement de conviction, il ne va pas s'endormir. Bon. Mais il écoute quand même mieux s'il est assis. Je pense que la visite, le mieux, enfin, pour l'intérieur au moins, c'est de trouver le bon endroit, mais de commencer assis pour prendre la mesure de l'espace. Et si possible, de se réasseoir en repartant. Pas simplement de faire le tour, mais si vous voulez, un peu comme un peu de recueillement, ben, pour dire, parce qu'un peu comme l'action de grâce après la communion, ben, de ne pas enchaîner. Bon, voilà, la station assise, ça peut. Bon. Il y a aussi quelque chose que les gens aiment bien, et pour vous aussi, ça peut être intéressant, c'est d'écrire quelque chose. Les gens aiment bien écrire quelque chose. Ils peuvent, si c'est des gens pieux, ils peuvent écrire des intentions de prière. Mais sur le bâtiment, ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont senti. Bon. Ils aiment bien écrire, les gens. Bon. Et puis, pardon? Oui, faire un livre, comme ça. Voilà, vous voulez écrire quelque chose? Oui. Ben, ils diront, la visite était formidable, vraiment, ces personnes sont merveilleuses. Voilà, quel dommage de ne pas les avoir connus plus tôt. Ah, s'il y en avait partout des comme ça, voilà, comme ça. S'ils ne savent pas, vous pouvez leur suggérer le texte. Voilà.
Comme moi, j'espère que vous avez apprécié l'humour de notre ancien évêque. Sachez que la prochaine émission Église porte ouverte portera sur la poursuite de la visite d'une église par Monseigneur Jacques Périer. Bonne semaine à tous. Au revoir.